Ce soir, nous recevons Madame Martine Barthélémy. Martine Barthélémy est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et également docteur de ce même institut. Elle est actuellement directrice de recherche au CEVIPOF, Centre d'études de la vie politique française, organisme dépendant de Sciences Po. Ses spécialités, sociologie politique, association et militantisme, socialisation et politique scolaire. Ses publications, Martine Barthélémy a contribué à de nombreux ouvrages. Elle est l'auteur de « Le militantisme associatif » dans « L'engagement politique, déclin ou mutation », ouvrage dirigé par Pascal Perrineau, presse de Sciences Po, 1994. « Les associations dans la société française, un état des lieux », Les cahiers du CEVIPOF, juin 1994, deux tomes, donc c'est une contribution importante. Des militants de l'école, les associations de parents d'élèves en France, revue française de sociologie, 1995. Militantisme et bénévolat associatif, qu'est-ce qui change ? Dans produire les solidarités de la part des associations, Fondation de France, mission recherche du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, 1997. Et puis, cette année, depuis trois semaines, vous pouvez trouver en librairie un ouvrage, ce n'est pas une contribution, c'est un ouvrage donc de Martine Barthélémy, Association 2 points, un nouvel âge de la participation, point d'interrogation. C'est aux presses de Sciences Po, et donc à votre disposition dès aujourd'hui. Voilà, Martine Barthélémy, c'est à vous.
Merci beaucoup. Les autorités politiques comme le milieu associatif s'apprêtent à célébrer le centenaire de la loi de 1901 sur le contrat d'association. Aujourd'hui, au cœur de l'actualité, les associations ont occupé le devant de la scène. Les associations ont occupé le devant de la scène publique depuis une vingtaine d'années au moins. L'ensemble de la société s'est emparé de ce thème, parfois sans discernement. Or, il importe de porter un regard critique sur la contribution du fait associatif à la construction de la démocratie. Je souhaiterais souligner les aspects singuliers, propres à la France, d'un phénomène sociopolitique qui est central dans les démocraties occidentales. En effet, le développement des organisations volontaires est une tendance séculaire et qui s'est accélérée dans le dernier quart de siècle. Les associations, désormais, sont invitées à pallier la crise des médiations socio-traditionnelles. Dans quelle mesure sont-elles le fer de lance de la démocratie ? Je tenterai de répondre à cette question en trois temps. Au rappel des origines du modèle associatif français, succédera une illustration des deux dimensions d'intégration et d'autonomie qui sont au principe du développement associatif, puis une présentation du contexte actuel et des limites de la solution associative. L'association doit s'entendre ici comme un groupement qui, à partir de la sphère privée, intervient dans l'espace public. Elle repose en effet sur des personnes privées, mais se distingue à la fois du marché et de la sphère intime et familiale, et de la sphère publique stricto sensu, qui se limite au pouvoir étatique. Ces deux notions d'association et de public appartiennent à la société moderne et vont de pair avec l'émergence de l'individualisme, c'est-à-dire avec la possibilité de penser la société non plus comme un ensemble hiérarchisé de corps et d'état, mais comme un ensemble d'individus dont l'existence est autonome et antérieure à leur insertion dans des groupes d'appartenance. Se pose alors la question du lien social et politique et de la citoyenneté, c'est-à-dire de ce qui fait que l'ensemble des individus dont les intérêts particuliers sont multiples se reconnaissent néanmoins dans une culture commune, y compris lorsque certains d'entre eux s'associent librement et contractuellement pour défendre ou promouvoir un objectif qui leur est propre. Les réponses apportées à cette interrogation ont été très différentes d'une société à l'autre. Et plus qu'aucune autre, sans doute, la société française oppose les traits caractéristiques de la société traditionnaliste, communauté, corps intermédiaires, hiérarchie et sacré d'une part, à ceux de la société moderne, nation, individualisme, égalité et organisation rationnelle du pouvoir d'autre part, en superposant à ce clivage la distinction privée-public. la chose publique définit l'espace du politique et la citoyenneté est fondée sur un lien direct entre l'individu et la nation. L'individualisme rationnel des Lumières situe la garantie des droits individuels dans la souveraineté nationale, ce principe étant revendiqué à la fois par les républicains et les libéraux. Mais les républicains placeront expressément la souveraineté nationale dans le peuple, impliquant par là que l'État, en tant qu'organisation du pouvoir, est au service d'une finalité. Il a le devoir d'agir dans l'intérêt du plus grand nombre, c'est l'intérêt public, et d'intervenir directement dans la vie sociale pour remplir un certain nombre de fonctions. L'idéal révolutionnaire repose sur la souveraineté populaire et l'espoir de s'approcher autant que possible du gouvernement direct. Et par là, il exclut, en théorie, toute forme de groupement intermédiaire entre le citoyen et la nation. La menace que représente l'Église catholique est, jusqu'à la fin du XIXe siècle, un obstacle de nature stratégique à la reconnaissance de l'association par les républicains. L'obstacle philosophique réside dans la crainte, toujours présente, que la liberté de conscience individuelle ne soit aliénée au profit d'une quelconque autorité incarnée par telle ou telle organisation. La tradition républicaine présente donc une originalité incontestable. Tout se passe comme si elle refusait partiellement la modernité telle que l'admettent et la définissent les anglo-saxons notamment, c'est-à-dire l'affirmation au sein de la société civile des énergies individuelles et leur régulation par une autodiscipline réduite au minimum et un état minimal au profit d'un maximum de liberté. À ce refus partiel de la modernité, deux raisons majeures que l'on rappellera pour mémoire, le développement de la monarchie absolue et centralisée, qui a favorisé l'établissement précoce de la notion de service public, et l'importance de l'Église catholique et du dogme contre lesquels la République fondera son exigence de liberté. S'il faut attendre 1901 pour que soit légalement reconnue la liberté d'association, un essor majeur de la vie associative, amorcé en 1880, est indéniable. Et la reconnaissance de cette liberté et la consécration d'une histoire sociale et politique de l'idée associative à laquelle ont contribué tout au long du siècle, de fait, les républicains eux-mêmes, dans l'opposition, sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, puis les socialistes, voire certains libéraux. La citoyenneté politique n'est pas démocratique à l'origine. Elle écarte notamment les femmes et elle ne correspond pas à la description de la réalité sociale. Au cours du XIXe siècle, donc, l'individualisme sera battu en brèche par le développement d'un historicisme positiviste. Il pose la nature sociale et évolutive des hommes en société et les républicains devront l'accorder avec leur fidélité à l'héritage des Lumières. Les progrès de l'anti-individualisme sous ses diverses formes, solidarisme, catholicisme social, socialisme, constituent donc la toile de fond de la reconnaissance légale de la liberté d'association. Cette liberté est garantie au niveau constitutionnel dans la plupart des pays d'Europe occidentale, y compris en France depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971. Si aucune législation spécifique ne précise le statut des organisations volontaires aux États-Unis, par exemple, la France n'est pas seule en Europe à établir une définition légale de l'association. En revanche, celle-ci n'implique pas toujours une activité désintéressée. La loi du 1er juillet 1901 réunit deux libertés. Celle pour les particuliers de créer par convention une association et de s'en retirer quand ils le souhaitent, et celle pour les groupements associatifs de se constituer sans aucun contrôle préalable et de fonctionner comme ils l'entendent, compte non tenu à l'époque des restrictions touchant les congrégations et les associations comprenant des étrangers. Première remarque, l'association est placée dans la sphère privée, mais l'interdiction de partager des bénéfices la situe explicitement hors du marché. Seconde remarque, l'acquisition de la personnalité juridique et des moyens qui lui sont liés est soumise à déclaration est suspendu pour ce qui concerne ce que la loi appelle la grande capacité, à la reconnaissance par décret comme association d'utilité publique. Jusqu'alors exclue du champ social, l'association acquiert une reconnaissance incontestable. Cependant, celle-ci est concédée et encadrée par la puissance publique et ne va pas jusqu'à mettre en question cette séparation entre privé et public. Les moyens d'action de l'association en tant que personne morale sont liés au degré de dépendance à l'égard de l'administration. On peut dire que la légitimation se fait par le haut. La bonne association, en quelque sorte, est celle qui, en répondant à la forme de l'État républicain, accède à l'intérêt général. Au-delà du droit, la loi de 1901 a valeur de symbole. Elle est le fruit d'un compromis entre l'esprit des Lumières et la tradition républicaine d'un côté et l'anti-individualisme qui légitime la contribution des groupements de la société civile à la démocratie de l'autre, entre l'universalisme de la citoyenneté politique et le particularisme d'une sorte de citoyenneté sociale. Nombreux sont ceux qui ont invoqué à la suite de Tocqueville la tradition républicaine, la centralisation et le primat du politique dans la culture française pour stigmatiser le retard français en matière de développement associatif et idéaliser au contraire le modèle américain. La comparaison des données statistiques et des catégories utilisées pour désigner l'association et mesurer l'appartenance associative d'un pays à l'autre n'est pas aisée. Elle rend les généralisations périlleuses, a fortiori lorsque l'on parle du passé. Mais le constat d'un retard n'est pas tout à fait dénué de vérité et s'appuie sur des différences culturelles indéniables. Ainsi, la stratification religieuse de la société américaine et la fragmentation du protestantisme explique que l'intégration des individus à la communauté religieuse se traduise par une forte associativité. Près des deux tiers des organisations volontaires seraient aux États-Unis d'origine religieuse. À ceux qui privilégient le lien entre protestantisme et forte associativité, on peut cependant rappeler l'influence fondamentale, en France également, du catholicisme social dans la valorisation des structures intermédiaires à la fin du XIXe siècle et dans le renouveau associatif beaucoup plus récent des années 60 et 70. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la vitalité du fait associatif n'est plus à mettre en doute, y compris en France. Certains chiffres sont bien connus, 700 000 associations plus ou moins actives au total, plus de 60 000 créations d'associations par an, environ 45% de Français adhérant d'une association. Certes, un plus faible pourcentage de la population s'y investit activement, mais 8 Français sur 10 seraient, d'une manière ou d'une autre, concernés par la vie associative, les dons ou le bénévolat. Le développement associatif exprime d'abord la transformation des réseaux de relations et des statuts sociaux. La multiplication des groupements tient à la complexité croissante et au raffinement de la vie sociale, à la diversification des enjeux et à l'accès d'un nombre d'individus de plus en plus important à cette complexité. Mais la forme associative n'est pas seulement forme de sociabilité. Au sein des associations, des statuts sociaux s'élaborent, se renouvellent et des mouvements sociaux se cristallisent. Enfin, la double nature de l'association lui confère une identité politique. Elle est tout à la fois, ou successivement selon les cas, un instrument d'expression et d'autodétermination des citoyens et un instrument de contrôle social et de légitimation politique. Ainsi, le sort de la démocratie ne se joue pas seulement dans la politique institutionnalisée et réalisée dont l'État serait le siège, mais aussi dans le mouvement social et des groupements issus de la société civile, dans la politique qu'on pourrait nommer délibérée. Ce lien intrinsèque entre le fait associatif et la démocratie, Tocqueville est l'un des premiers à le souligner. Les associations qu'il observe aux États-Unis en 1831 sont pour lui des institutions libres, non étatiques, seules à même de combattre l'individualisme, de concilier liberté et égalité, et d'éviter l'anarchie comme la tyrannie. Tocqueville avait raison, jusqu'à un certain point. Ni aux États-Unis ni en France, et pas plus aujourd'hui qu'hier, le développement des organisations volontaires ne peut être d'emblée assimilé à un processus de démocratisation. Hier, au tournant du siècle, c'est une idéologie profondément conservatrice qui sous-tend l'essor des associations américaines. Elle fait de la charité et du volontariat une obligation religieuse qui s'impose à ceux que leur supériorité naturelle a permis d'être riches et entrepreneurs. Et durant deux générations, cette idéologie tiendra en échec l'État-providence en dépit de la détérioration de la situation économique et sociale et de l'incapacité des organisations philanthropiques à réaliser les buts qu'elles s'étaient assignés. Autre limite à la démocratisation, l'imbrication du pouvoir municipal et des réseaux associatifs, qui est aujourd'hui tout aussi évidente dans les deux pays, États-Unis et France. Les militants associatifs parviennent à constituer une véritable élite susceptible de fournir candidats et appuis à telle ou telle liste électorale. La vie associative représente bien pour ces acteurs un moyen important de promotion sociopolitique. Pour l'essentiel, pourtant, elle échoue à se doter d'une base populaire. Si elle offre un apprentissage des ressorts de la vie publique et de l'action collective, elle suppose aussi la détention d'atouts culturels spécifiques. La participation aux associations favorise bien l'intégration des individus à la communauté locale, mais c'est une intégration sélective. Les associations reconstituent même parfois des exclusions, particulièrement dans le cas américain, lorsque la participation à tel ou tel groupement apparaît comme un quasi-devoir social pour certaines catégories de la population ou comme une source de prestige essentielle à l'acquisition d'un statut. L'essor quantitatif des groupements associatifs durant les 25 ou 30 dernières années connaît enfin des limites. Il enregistre, en France notamment, des phénomènes différents, dont certains fort éloignés d'un associationnisme à vocation militante ou démocratique. Il traduit bien une montée de mouvements voués à la défense de causes très diverses, comme l'environnement, le cadre de vie, le féminisme, l'antiracisme, auxquels il convient d'ajouter, surtout depuis le milieu des années 80, la multiplication ou la relance des associations humanitaires, d'immigrés, d'aide à l'emploi ou au logement, et de défense des sans, sans papiers, sans logis, etc. En revanche, les secteurs historiques de l'éducation populaire, de la famille ou de l'action sanitaire et sociale régressent sensiblement en part relative des créations d'associations et subissent de plein fouet la crise du militantisme. Une autre figure de l'essor associatif est constituée par le développement d'associations centrées sur leurs membres et ne visant qu'à la satisfaction de leurs besoins. De plus en plus nombreux, ces clubs du troisième âge, ces amicales, ces groupes constitués autour d'une identité culturelle ou d'un hobby, n'expriment ouvertement ni volonté d'influence sociale ni désir d'action envers les pouvoirs publics. Toutefois, ces associations ne sauraient être considérées comme de pures expressions de sociabilité. Elles peuvent avoir vocation, dans certaines circonstances, à basculer dans l'espace public, à l'instar des groupes chasse, pêche, nature et tradition. Enfin, certaines associations engagées dans l'activité économique se trouvent de fait aux frontières du monde associatif et du marché, telles les associations intermédiaires, de formation ou les régies de quartier. En tendant vers toujours plus de professionnalisme et d'efficacité, n'apparaissent-elles pas comme pourvoyeuses de services et d'emplois, bien plus que comme animatrices ou mobilisatrices de la participation des citoyens? D'autres encore, mixtes ou directement créées ou dirigées par les collectivités publiques, dans le but d'échapper à la contrainte du droit public, témoignent de l'utilisation abusive de la loi de 1901 par la puissance publique elle-même et de son attitude ambiguë vis-à-vis des intérêts privés. Toujours sur le plan du développement, des logiques du développement associatif, On peut opposer à l'optimisme libéral et anti-étatiste qui était celui de Tocqueville le processus dialectique qui préside au mouvement de la société civile et à l'expansion de l'État, un processus qui n'est pas réductible au degré de centralisation. Partout, en Europe et en Amérique du Nord, la construction de l'État-nation au siècle dernier alimente le développement de l'action collective et de la vie associative. Partout, la mise en place de l'État-providence, loin d'évacuer le secteur associatif, implique l'élaboration de nouvelles formes de coopération entre État et associations, dans les conditions particulières à chaque nation. À partir de la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir politico-administratif a largement contribué à l'organisation de la complémentarité entre l'action publique et le système associatif, notamment en matière sociale et éducative. Les spécificités françaises ici résident moins dans le fait de l'interpénétration des institutions publiques et des groupements associatifs que dans son encadrement juridique et ses formes symboliques et politiques très révélatrice d'un associationnisme au service de l'utilité publique. Le dispositif instauré par la loi de 1901 n'a connu que peu de modifications, mais l'administration a multiplié les réglementations à l'égard des associations, à la fois pour les encourager, s'appuyer sur leurs efforts et les contrôler. Les associations tirent en partie au moins leur légitimité des privilèges et des prérogatives accordées. L'accès à l'État en France demeure l'une de leurs priorités. L'interaction constante entre milieu associatif et pouvoir public ne s'inscrit pas dans un cadre institutionnel formel. La France échappe au système de relations transactionnel entre groupes et pouvoir public tel qu'il peut exister en Scandinavie, en Autriche ou en Allemagne. En revanche, certains secteurs, comme le secteur éducatif ou les intérêts familiaux, illustrent, depuis 1945, une forme de ce qu'on a pu appeler corporatisme à la française, dans laquelle les professionnels ou les usagers gèrent une activité sociale avec le soutien de l'État. La participation des associations à la définition des politiques publiques a connu une nouvelle accélération après l'alternance de 1981, favorisée par la symbiose politique, en quelque sorte, existant entre les militants associatifs, féministes, antiracistes ou environnementalistes et leurs alliés au gouvernement ou dans l'administration. Le caractère indissociable des dynamiques conflictuelles et institutionnelles de l'activité associative est donc un trait constitutif du développement associatif. Et les anciennes associations, comme les nouvelles, sont concernées par cette imbrication de l'action publique et du mouvement social et par la confrontation des logiques d'intégration et d'autonomie. C'est pourtant sans aucun doute la logique d'autonomie qu'il a emportée à partir de la fin des années 60 dans les pratiques sociales et les représentations idéologiques. Parallèlement à l'envolée des créations annuelles d'associations, et malgré la diversité extrême de cet essor, un certain nombre de traits communs émergent. Un lien privilégié s'établit entre l'appartenance aux classes moyennes salariées en pleine ascension et l'investissement dans les associations. La forme associative s'empare de la vie quotidienne et apparaît comme le support privilégié des demandes et des contestations qui souvent se réclament de l'esprit de mai 68. Les valeurs de solidarité, de convivialité et de démocratie locale, enfin, deviennent la référence dominante. La singularité française s'exprime ici, non dans le foisonnement de ces nouvelles luttes et associations qui existent également dans les autres démocraties occidentales, mais dans l'apparition d'une véritable idéologie associative. La démarcation entre public et privé, caractéristique du modèle originel de 1901, progressivement a cédé la place dans les représentations collectives à un espace associatif autonome construit autour de la notion d'intérêt collectif et d'une double dévalorisation du public, bureaucratique, et du privé, impur et intéressé. L'individu a changé de statut. Il était hier l'objet d'une inculcation démocratique. Il est désormais sommé de participer et d'exprimer ses potentialités. Le ciment de cette idéologie, c'est l'accent sur la faillite ou la crise des médiations sociopolitiques traditionnelles. La dimension critique à l'égard du système partisan et de la politique professionnelle s'appuie dans ces années 70 à gauche sur une valorisation des formes décentralisées et qualitatives de conflit, à droite sur une vision moderniste et pluraliste de l'expression et de la participation sociale. L'autogestion et le libéralisme avancé se rejoignent dans une dénonciation du trop d'État et une glorification de la société civile. Ce discours associatif se réapproprie du reste les thèmes dominants à la fin du XIXe siècle. Le mythe de l'économie sociale est réactivé. La solidarité et le bénévolat sont mis à l'honneur. Et le principe de subsidiarité sous-tend la revendication de décentralisation. Principe selon lequel, je le rappelle, l'intervention de l'État vient compléter celle des instances locales ou du tissu social qui demeure première. Tous les partis politiques, cependant, ne sont pas rejetés par les associations avec la même intensité. Des relations privilégiées s'établissent entre les milieux associatifs et la droite libérale et surtout le Parti socialiste. On sait ce que le renouveau de ce parti et son accès au pouvoir doivent au développement des associations et à leur potentiel militant. Progressivement, les pouvoirs publics sont passés d'une attitude qui demeurait méfiante, y compris dans la coopération, à une sollicitude nouvelle à l'endroit des associations. Et à partir de 1981, l'option associative des socialistes se concrétise. Elle prolonge la politique giscardienne de relance des associations et on assiste à une amplification des mesures prises en leur faveur et à une multiplication des instances de concertation. Dès les années 70, donc, le développement de la vie associative apparaît comme un instrument privilégié d'une nécessaire modernisation de la politique. Depuis une quinzaine d'années, le contexte économique et politique s'est profondément modifié. Pourtant, la configuration du discours associatif, du discours sur les associations, reste paradoxalement proche de ce qu'elle était alors, au sens où les principales formes de légitimation des associations, dans les années 90, sont permises par les ruptures et les évolutions de la période antérieure. Au cours des années 80, c'est sur un fond d'hégémonie du libéralisme économique que la reconnaissance institutionnelle du monde associatif accompagne la désyndicalisation et le déclin relatif de certains mouvements sociaux. Avec les années 90, s'installe le sentiment d'une crise généralisée, voire d'une mutation majeure des économies et des démocraties occidentales. Et là, plusieurs éléments viennent nourrir le recours aux associations. Le chômage persistant et le développement de la précarité, la méfiance toujours croissante des citoyens vis-à-vis de la classe politique et des formes traditionnelles de participation, le recul des idéologies globalisantes et l'effritement des rapports de classe. Que demande-t-on aux associations ? Pas moins que de résoudre la crise de la relation entre l'individu et l'État. À la réduction de la demande d'État qui était mise en avant dans les années 70, succède la demande d'un autre État, un État animateur, qui s'appuie sur l'initiative et la mobilisation des acteurs locaux, entreprises, élus, associations. Celles-ci sont chargées à la fois de produire la sociabilité, la solidarité et la citoyenneté. Les pouvoirs publics leur prescrivent un rôle de traduction et d'encadrement des demandes sociales qui doit en même temps valoriser l'investissement des citoyens et les forces vives du bénévolat. Cet impératif rencontre les aspirations des associations qui convergent vers un idéal, s'affirmer comme un lieu autonome d'exercice de la démocratie au quotidien, un lieu proche des citoyens, à l'écoute de leurs préoccupations et indépendant autant que possible des appareils syndicaux, partisans et étatiques. La recherche de nouvelles pratiques procède à un renversement de la priorité de l'action politique. En préalable aux visées sociétales et à l'action centrée sur l'État, les associations mettent en avant la construction de la société, pour les plus radicales, la construction du mouvement social. Un renversement d'attitude conduit parallèlement à privilégier avant tout l'élément humain, les réseaux sociaux et la vie locale. Ce qui distingue aujourd'hui les associations les plus récentes et caractérise les mutations de certaines associations plus anciennes, c'est cette thématique de l'immédiat, du concret, et de la solidarité, autour de laquelle les associations essayent d'abord de construire du lien social plutôt que du sens politique. La transformation des conditions immédiates, certes, n'est pas en soi une stratégie neuve, mais le contexte de crise globale fait simplement qu'elle pèse d'un tout autre poids et qu'elle modifie les formes d'intervention des groupements. Une logique de plus en plus prégnante se fait jour. Les diverses initiatives répondent par des actions concrètes et ciblées, et en amont d'un projet politique, à des situations d'urgence sociale ou d'urgence civique, pauvreté, échec scolaire, désinsertion, racisme. Sur le versant humanitaire de la réponse à l'urgence, une multitude d'associations nouvelles, dont quelques-unes très médiatiques, viennent s'ajouter aux groupements traditionnels qui se consacrent à l'action sociale. Sur un versant plus contestataire, celui des associations de lutte, la prise en charge ou la défense du groupe se double d'une dénonciation plus critique de la situation politique et sociale. Mais dans l'un et l'autre cas, la problématique de la défense des droits de la personne gouverne la majeure partie des initiatives. L'objectif affiché, c'est l'obtention d'un statut pour les sans-papiers ou d'un toit pour les sans-logis, c'est la reconnaissance comme Français à part entière pour les jeunes issus de l'immigration, c'est l'émergence d'une expression ou d'une représentation des exclus, c'est le recouvrement de la dignité pour les chômeurs, etc. La recherche de convergence dans l'action est une caractéristique majeure des créations et des mobilisations associatives. Point n'est besoin de s'accorder sur ce que pourrait être la société de demain pour agir ensemble aujourd'hui. Cette conviction est au fondement de la création, en forte expansion, des réseaux transversaux, des collectifs et des coordinations. Quant à l'essor nouveau des associations culturelles et sportives, il marque le déclin relatif de la pédagogie du civisme qui était à l'honneur au sein des grandes organisations d'éducation populaire et de loisirs, au profit de préoccupations plus ou moins consuméristes. Donc, déclin, là encore, du projet politique. L'esprit du sport pour tous tente à céder la place à la fois aux sports de compétition et aux activités sportives de type plus commercial et individuel. De même, la promotion des œuvres culturelles ou le développement de projets culturels circonscrits, financés à la carte par les pouvoirs locaux, relègue au second plan l'idée d'accès de tous les individus à la pratique et à l'apprentissage. Les formes de l'engagement associatif connaissent un profond renouvellement qui se traduit dans l'effacement de la figure du militant traditionnel au profit d'un acteur individuel concret. Le modèle de militantisme dominant dans la tradition républicaine française est conçu comme l'expression d'une vision globale du monde. Par l'insertion des groupements dans des réseaux politiques et idéologiques, ce modèle demeure fondamentalement politique. L'analogie entre le militantisme syndical et partisan et le militantisme associatif trouve d'ailleurs une justification dans le cumul des engagements. Le plurimilitantisme est un trait distinctif de la nouvelle gauche durant les années 70. Le reflux de cette forme historique et politique de militantisme ne se réduit pas à la chute des effectifs d'adhérents qu'on peut observer dans les organisations partisanes, syndicales, voire, dans certains cas, associatives. On le lit aussi dans les transformations qualitatives des motivations de l'adhésion individuelle, des modalités et des objectifs de l'engagement dans l'espace public. Celui-ci ne suppose plus une démarche globale d'adhésion à un système idéologique, mais des formes souples et pragmatiques d'affiliation au groupe et d'action commune visant à l'accomplissement d'objectifs ponctuels. L'idéal militant était défini à la fois par son inscription dans l'histoire nationale et par son potentiel identitaire. Aujourd'hui, la dimension locale et l'horizon planétaire d'un côté, l'immédiateté et l'intérêt général de l'autre tendent à s'y substituer. Enfin, les faveurs dont bénéficie le bénévolat est un autre signe du renouvellement. Plutôt que de s'interroger sur le militantisme, ce qui paraît aujourd'hui presque incongru, les porte-paroles du mouvement associatif, comme les institutions, préfèrent parler de bénévoles. Le bénévolat se pose comme action non contrainte, tournée vers autrui ou vers la communauté locale, avant d'être adhésion à un groupe ou à un projet social. La variété des types d'engagement, des catégories et des itinéraires bénévoles est immense, mais il s'agit toujours d'un engagement modeste. Ce développement associatif récent justifie à première vue un très grand optimisme. Il signale un réveil salutaire de la démocratie locale, une expression légitime des solidarités ou des communautés culturelles ou des groupes ayant des intérêts communs à défendre. La démocratie républicaine proclame un idéal, assurer l'égalité des droits pour tous, que contredit l'observation des réalités concrètes. Et ces réalités, le mouvement associatif a l'ambition de les faire connaître et de les prendre en compte pour rénover la démocratie. Y parvient-il ? Le paradigme de la citoyenneté associative a pris le relais dans les années 90 du modèle post-68art de la société civile. Mais la célébration de l'autonomie et l'évolution même de la forme associative comportent des limites. L'interpénétration de l'État et de la société invalide l'idéologie du tout associatif. Les tensions particulièrement vives dans la culture française entre les deux modes d'action collective, l'un structuré autour de l'État et du national, l'autre centré sur l'autonomie des groupes et l'action locale, ces tensions se sont aiguisées depuis le milieu des années 80. Pour beaucoup d'observateurs, les socialistes portent jusqu'en 1993 une part importante de responsabilité dans l'inadéquation qui s'est révélée croissante entre l'idéal et le fonctionnement réel. Dans bien des cas, la logique de l'État a prévalu sur le mouvement social ou la démocratie locale, alors même que les milieux socialistes que les milieux associatifs avaient placé d'immenses espoirs dans l'arrivée des socialistes au pouvoir. L'injonction à participer adressée aux habitants, en particulier ceux des quartiers ou des banlieues dits défavorisés ou difficiles, s'est souvent accompagnée de bureaucratie et d'instrumentalisation, aboutissant à contrario à freiner les dynamiques locales. La décentralisation a changé la donne. L'administration de l'État incarnait un arbitrage géographique relativement équitable et une certaine continuité du financement des structures associatives au moyen de la subvention. Le renforcement des compétences des collectivités locales et la fragmentation des politiques publiques aujourd'hui créent pour les groupements associatifs une situation de plus en plus difficile à gérer. Les frictions sont exacerbées avec les partenaires locaux, disparités sont accrues entre les communes ou les départements. Les groupements affrontent la concurrence avec les services marchands, subissent la dépendance vis-à-vis de l'offre publique. À travers les conventions de financement qui sont liées à la réalisation d'un projet précis, l'État définit les paramètres en même temps qu'il délègue aux collectivités locales et aux associations la responsabilité d'un certain nombre de missions. La complémentarité des associations avec les pouvoirs publics est sans aucun doute à redéfinir. Mais le fait d'interpeller l'État ne doit pas conduire les associations à laisser dans l'ombre leurs propres responsabilités dans les manquements à la démocratie. Tout concourt en effet à faire de l'association le contraire d'un havre de la démocratie. La sélection des plus compétents, le jeu de l'intégration, le mimétisme. Les grandes associations qui reprennent aujourd'hui à leur compte les revendications de citoyenneté ont trop souvent cherché leur légitimité ailleurs qu'en elles-mêmes, auprès de la puissance publique, quitte à devenir des professionnels de la démocratie participative. Nombre de groupements, petits ou grands, connaissent une notabilisation des responsables, un faible renouvellement des dirigeants, une routinisation et un relâchement des procédures démocratiques. La responsabilité d'incarner la volonté commune incombe au conseil d'administration, celle d'entériner incombe à l'Assemblée générale. Le monde associatif n'échappe pas à la contradiction qui est inhérente au système représentatif entre l'idéal de la souveraineté totale et les nécessités de la vie politique qui conduisent à substituer à la volonté des citoyens celle de leurs représentants. La vraie démocratie trouve-t-elle son terrain d'élection dans l'action locale, la solidarité et l'autonomie à l'égard de la politique institutionnelle ? Cette opinion s'est répandue comme une évidence dans les milieux associatifs. La revitalisation de la démocratie et la réhabilitation de la politique nécessitent une rupture du monopole de la représentation détenue par la politique institutionnelle et les états-majors partisans. Mais si les associations désirent travailler à une véritable transformation politique, elles doivent elles-mêmes procéder à une politisation de leur forme d'intervention dans l'espace public. Cela suppose que le mythe d'un mouvement associatif conciliant toutes les différences cède la place à une reconnaissance des conflits qui les opposent et à une identification des enjeux. Cela suppose encore que les initiatives et les mobilisations ponctuelles soient dépassées et intégrées dans une vision plus globale, une vision sociétale, que les pratiques de solidarité soient liées à des significations politiques qui intégrerait une réflexion sur la place des groupes sociaux dans la société. Cela suppose enfin qu'une synergie entre le tissu social et l'action dans les institutions soit repensée, permettant l'articulation des mouvements de la société civile à la société politique. C'est là que réside sans doute le secret de la démocratie.
Voilà. Madame Barthélémy, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux questions. Il y a deux micros dans la salle. Vous levez le doigt et on va vous donner la parole. Voilà, monsieur. En deux, hein, là-haut. Allez-y, monsieur.
Je crois qu'il y a eu, il y a un peu plus d'un an, je suis même sûr, des assises, des associations qui se sont tenues à la Grande Arche, à la suite desquelles il a été promis beaucoup de réformes, de mises à jour, etc. Avez-vous des informations sur les suites ?
Effectivement, dans certains domaines, on peut identifier des suites, mais elles sont encore en cours, si je puis dire. Par exemple, dans le domaine de la participation des jeunes aux associations, le système des associations juniors, c'est-à-dire pouvant favoriser la participation des jeunes avant l'âge de 18 ans à la vie de l'association, est en train de se mettre en place actuellement. Dans certains d'autres domaines, alors ceux-là beaucoup plus techniques, qui tiennent à la fiscalité des associations et à leur, au statut des dirigeants, les discussions sont encore en cours, car malgré les promesses faites par les pouvoirs publics, malgré quelques modifications apportées à la dernière instruction fiscale qui avait été élaborée quelque temps avant les assises, malgré cela, les milieux associatifs reste encore très largement insatisfait. Et je dois dire que j'en profite pour, grâce à votre question, pour dire que lors de ces assises, c'est justement toute cette question des relations avec les pouvoirs publics qui a principalement occupé les associations et tout particulièrement les aspects très techniques de fiscalité, de statut des dirigeants, de définition de l'activité intéressée, désintéressée, de définition de l'utilité publique, etc.
Oui, monsieur.
Oui, s'il vous plaît. Je voudrais, est-ce qu'il y a moyen de nous donner des chiffres sur le nombre d'associations des 1 700 000 en France et les États-Unis, parce qu'il y a des sociologues français qui sont allés là pendant plusieurs années pour voir la violence, étudier, sont des spécialistes de la violence ou de les meutes de Watts, etc., qui datent maintenant de 30 ans. Bon, ils nous disent souvent qu'il y a une efficacité. Et puis il y a peut-être aussi un beaucoup plus grand nombre, forcément, c'est un pays plus grand, mais aussi, vous parliez là, juste à l'instant, des relations avec les pouvoirs publics. Ils sont capables de bien organiser ça. Chez nous, c'est très difficile. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres? C'est peut-être plus difficile dans des secteurs, mais d'une façon globale, un nombre...
Si c'est les chiffres sur les associations américaines que vous demandez, ils sont tout à fait impossibles à donner à ma connaissance. Parce que, pour une raison bien simple, c'est que l'association n'a pas à se déclarer aux États-Unis. C'est très difficile, ce sont des associations de fait. Et ce qui fait que la définition même, d'ailleurs, de l'association ou de l'organisation non volontaire à but non lucratif a une définition très, très souple, enfin, aux frontières très élastiques. Si vous me demandez les chiffres par secteur du mouvement associatif en France, je me permets de vous renvoyer peut-être à des ouvrages qui sont parus là-dessus, parce que bon, je ne les ai d'ailleurs pas sous les yeux, ni tous en tête, mais des ouvrages importants sont parus justement assez récemment et qui font un recensement de l'ensemble du secteur à but non lucratif en France, donc comprenant également d'ailleurs ce qu'on appelle au sens large l'économie sociale, et ce qui est d'ailleurs très utile parce qu'on n'avait pas connaissance de ces données auparavant.
Monsieur.
Oui, puisqu'on parle de chiffres et puisque vous venez de parler de déclarations, je voudrais souligner qu'il y a des faiblesses dans nos pratiques actuelles qui me semblent importantes et que vous-même, vous n'avez pas souligné. La première faiblesse, c'est la préfecture demande la déclaration, mais se garde bien de faire du suivi ensuite, et ne demande même pas la déclaration de liquidation de l'association. Non seulement elle ne demande pas la déclaration de cessation, mais elle ne demande pas de déclarer ou elle ne relance pas pour déclarer le suivi de la vie de l'association, c'est-à-dire essentiellement le renouvellement des membres dirigeants. Il y a là justement, il me semble, une faiblesse que je constate, c'est peut-être parce que je vieillis, il me semble que je le constate de plus en plus dans les associations. Les personnels dirigeants des associations, le plus souvent, ne savent même plus qu'une association, c'est un contrat entre ses membres et que c'est en déclarant ce contrat à la préfecture qu'on obtient le statut de personne morale. Et ça, c'est quelque chose d'important dans les relations sociales, justement dans les relations extérieures. Aussi, je passe au suivant.
Oui, là-haut, tout là-haut, au milieu. Oui, non, on vous passe un micro. Quelqu'un arrive avec un micro. Si vous pouvez lever le doigt à l'avance, comme ça, comme il y a deux micros, c'est plus facile.
Oui, j'ai bien aimé votre conclusion quand vous dites que pour arriver à résoudre le problème entre la position de l'État ou des responsables politiques et les états-majors partisans, comme vous dites, il faut une rupture et vous conseillez, si j'ai bien compris, que les associations politisent un peu leurs enjeux. Et on reste un petit peu sur notre fin en se demandant, mais comment est-ce qu'elles vont y arriver? Et actuellement, je suis un petit peu étonnée dans le débat actuel sur le droit de vote des immigrés, où on avance que, au fond, on peut donner le droit de vote aux immigrés, mais simplement sur le plan local, parce que là, c'est de la gestion. Comme si le politique noble, commençait après. Alors que là, on est dans un champ quand même politique, puisqu'il s'agit de vote et on est en plein dans la démocratie reconnue. Alors comment, si on en est là dans le débat actuel, comment faire passer quelque chose de plus politisé au niveau des associations? Ce sont des questions que je me pose.
Alors, je réponds tout de suite. Oui, comment politiser? Je crois que la politisation des modes d'intervention, elle tient d'abord ce que j'essayais de dire tout à l'heure, à une identification des enjeux et non pas une pure gestion de la vie quotidienne. Une identification des enjeux, ce qui nécessite d'avoir une vision un petit peu à long terme, hein. Alors, identification des enjeux d'abord, ensuite coopération avec d'autres groupements pour essayer d'agir de manière plus large. En fait, la politisation des modes d'intervention, c'est le passage d'intérêts particuliers, sans qu'il y ait de notions péjoratives là-dedans, hein, mais d'intérêts qui peuvent quand même demeurer particuliers au groupe, ou voire même à des individus. C'est le passage d'intérêts particuliers à un intérêt collectif plus large et une réflexion sur l'apport que peut avoir l'association à la construction d'un projet global de société. Pour moi, c'est ce que j'entends par politiser les enjeux. Alors, bon, le vote des immigrés, c'est peut-être un petit peu hors sujet. Je crois que cette question qui est très sensible tient à la définition aussi de la citoyenneté que j'évoquais au début de mon exposé. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense, qu'on fait une différence entre vote des immigrés au plan local et puis vote au plan national, qui en quelque sorte est considéré comme étant réservé aux nationaux, c'est-à-dire à ceux qui possèdent la citoyenneté au sens de nationalité.
Enfin. Oui, monsieur.
Oui, deux petites notions que vous avez prononcées plusieurs fois. C'est la notion de vraie démocratie. Ça peut être étonnant que 200 ans après, en France, on parle encore de vraie démocratie. C'est quoi dans votre... S'il vous plaît, madame. Deuxième notion, vous avez parlé de visée sociétale pour les associations. Est-ce que vous pouvez préciser ce que ça veut dire? Ce qui me permet de prolonger la question de la dame. Si les associations... quittent leur terrain pour occuper celui des politiques. Ils risquent de ne rien rester. Et puis, vous ne pensez pas qu'il faut plutôt qu'elles s'organisent sur le plan du consumérisme politique, peut-être pour obliger les hommes politiques à cesser de prendre les citoyens pour des imbéciles, puisqu'ils ne tiennent jamais leurs promesses. Merci.
Bon, j'ai évoqué effectivement vraie démocratie, mais dans mon idée, c'était vrai avec des guillemets. Et en plus, j'ai utilisé cette expression une seule fois, et c'était un petit peu pour retraduire l'opinion majoritaire que semblent avoir les milieux associatifs qui effectivement ont tendance à dire mais c'est nous la démocratie parce que regardez la démocratie représentative, ce que ça donne. Bon. Voilà le sens de... Il n'y a pas vraiment de sens théorique, ou c'était pas du tout un sens théorique que je mettais dessous, c'était plutôt un discours. Et alors la visée sociétale... effectivement, vous parlez de consumérisme politique et je crois que l'association, c'est effectivement son rôle, c'est de partir du terrain, d'objectifs précis, de données particulières à un groupe et de formation des gens qui appartiennent à cette association à l'égard des problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc cet aspect-là est absolument indispensable. C'est le projet de départ. C'est le projet de départ de l'association. Mais quand je parle de visée sociétale, il me semble important aussi, si on veut... Alors, bien sûr, si les associations n'ont pas prétention à rénover la démocratie, si on ne parle plus de citoyenneté associative, etc., on en reste là et c'est très bien. Mais si on veut développer cette notion de citoyenneté associative, si on dit la démocratie, maintenant, elle se trouve dans la société civile, dans les associations, etc., si on veut parvenir à cet objectif qui est de reconstruire ou de construire tout court la démocratie à travers les associations, il me semble qu'elles doivent dépasser un petit peu leur terrain de départ, hein, essayer de monter en généralité, comme on dit dans notre jargon de sociologique, jargon de sociologue, montée en généralité pour essayer de contribuer à la formation d'un projet plus global, d'un projet plus global de rénovation de la démocratie.
Justement, à la suite de ce que vous venez de dire et du fait que pour agir sur les pouvoirs publics, il faut une certaine quantité de gens, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la taille sur la taille optimum des associations et sur la taille réelle en ce moment?
C'est très difficile. Bon, là aussi, il faudrait avoir sous les yeux certaines statistiques permettent d'évaluer cela, mais on en possède quand même très peu parce qu'on possède deux sortes de statistiques, soit le nombre d'associations dans tel ou tel secteur, action sanitaire et sociale, action éducative, etc., soit le taux de participation des Français en général et à tel ou tel type d'association. Bon. Et c'est vrai que la taille des associations, on la possède, on la connaît uniquement quand on fait des études monographiques, quand on décide de faire des études monographiques, alors dans un espace géographique donné, soit en prenant une association donnée avec ses différents niveaux. Parce que c'est vrai qu'on dit les associations, mais il y a effectivement des associations de quelques membres, 10, 15 membres peuvent faire une association. Et puis, ce qu'on peut mettre aussi sous le label association, ce sont les immenses fédérations associatives qui elles-mêmes, donc qui fédèrent précisément des associations départementales, qui elles-mêmes fédèrent des associations locales, etc. Je pense par exemple à la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente. Bon, qui est un monstre associatif, si je puis dire, et qui fédère un nombre considérable d'associations locales. Bon, alors, si on prend le nombre d'adhérents global de la Ligue de l'enseignement, c'est évidemment plusieurs dizaines de milliers, mais elle fédère des petites associations locales tout au bas de l'échelle qui vont être de 10 ou 15 personnes. Alors, bon, effectivement, vous avez raison, l'éventail est large, mais on n'a absolument aucun tableau statistique global permettant de savoir combien quelle est la part des associations petites ou grandes. Enfin, on a des idées, mais un petit peu très très générales.
Oui, monsieur à extrême gauche.
Oui. Monsieur tout à l'heure a rappelé que l'association est d'abord un contrat et que c'est par la déclaration qu'elle acquiert la personne morale. Je voudrais vous parler des associations de personnes morales et éventuellement des associations de personnes morales publiques, de collectivités publiques, y compris l'État. Bon, elles sont assez souvent critiquées, mais le dernier rapport du Conseil d'État reprend les critiques et en même temps constate que la persistance montre qu'il y a un vrai problème. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il faut considérer que l'usage des associations par les personnes morales, je rappelle par exemple le MEDEF, sauf erreur de ma part, est une association et non pas un syndicat. Est-ce que une association de personnes morales, bien sûr, et non pas de patrons individuels. Est-ce que c'est un usage abusif du contrat d'association, ou est-ce qu'il ne faudrait pas considérer que c'est le recours à une forme de contrat civil qui n'est pas dans le code civil et qui a été créé par la loi de 1901 quand une région et éventuellement l'État ou d'autres collectivités créer un fonds d'art contemporain par exemple, ils ne font rien d'autre que de mettre en commun leurs moyens et leurs connaissances, comme le dit la loi de 1901. Alors, la loi de 1901 n'a pas dit que les associations doivent être des microcosmes de la démocratie, de la République. Il peut y avoir une association avec 2-3 membres et ces membres peuvent être des personnes morales. Donc enfin, comment analyser ça?
Bon, là, vous posez une question très juridique et j'avoue très franchement que ce n'est pas vraiment ma spécialité, mais je pense qu'il faut distinguer les associations que vous évoquez, que j'avais d'ailleurs citées aussi tout à l'heure, les associations dans lesquelles on trouve des collectivités publiques. Celles-là constitue, à mon avis, vraiment un abus, un usage abusif de la loi de 1901. Bon. Les associations de personnes morales, tout dépend si derrière cette personne morale, les individus, en principe, les individus réels existent. Alors, s'il s'agit d'associations elles-mêmes, à mon avis, il ne s'agit pas là d'un usage abusif, puisqu'on tombe un petit peu dans le système de fédération d'associations. Et je me demande si ce n'est pas un petit peu ça le MEDEF, mais là, je m'avance peut-être un peu. Donc, je crois que le critère, c'est quand même qu'il y ait à la base, effectivement, comme le rappelait monsieur tout à l'heure aussi, qu'il y ait à la base ce contrat d'association entre des individus. Ça me paraît indispensable. Et il est certain que cet usage abusif de la loi de 1901 par la puissance publique, qui est d'ailleurs sans arrêt critiqué par le Conseil d'État, la Cour des comptes et tout ce qu'on veut, on devrait vraiment y mettre un terme parce que ça pénalise la valeur de l'association, à mon avis.
Oui, monsieur Lahaut.
Ça marche, oui.
Oui, ça marche.
Oui, vous avez dit, vous avez fait le constat qu'il y avait un affaiblissement des associations, disons, d'éducation populaire, et sans donner une explication. Et d'autre part, il me semble, là, j'ai cherché du coup à avoir une explication. Et je voulais avoir votre sentiment sur ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire un certain nombre d'associations se transformer beaucoup plus nettement en moyens de pression, en groupes de pression, c'est-à-dire au fond prendre des formes plus syndicales, sans être des syndicats. Et si ce n'est pas quelque chose d'assez tragique en ce qui concerne la citoyenneté, parce que finalement, ces associations d'éducation populaire avaient pour but de développer une citoyenneté générale, alors que finalement, ces associations de pression sont quand même, malheureusement, plus éloignées de la démocratie et plus proches des formes de lobby, quoi. Et bien que j'en sente beaucoup la nécessité de ces formes de moyens de pression, et j'adhère à un certain nombre d'associations de ce type-là, je reconnais que ça me gêne beaucoup du point de vue démocratique. Je ne sais pas si mon interprétation peut vous...
Plutôt que de groupe de pression, moi je parlerais d'institutionnalisation de ce type d'association, et en particulier d'associations d'éducation populaire. Et c'est en ce sens qu'on peut parler de leur crise ou de leur reflux. C'est pas toujours forcément en termes d'effectifs, mais c'est que d'abord il y a une crise du projet, comme vous le dites vous-même, et un certain recul du projet de formation du citoyen, etc. Et au profit malheureusement soit de tendances un peu plus individualistes ou consuméristes, hein. Et il y a aussi un recul qui n'est pas dû d'ailleurs uniquement aux associations elles-mêmes ou au comportement de leurs membres, mais qui est dû aussi aux politiques publiques, à la décentralisation, au court-circuitage en quelque sorte du niveau fédératif, hein, qui s'est développé dans ce type d'association et qui fait que la Fédération d'éducation populaire se retrouve un petit peu démunie en termes de moyens, peut-être pas financiers, mais en tout cas en termes de moyens politiques pour centraliser ces associations locales autour d'un projet. Mais l'éducation populaire a beaucoup souffert effectivement de son institutionnalisation, qui remonte loin, hein, qui remonte à l'époque des équipements, les maisons des jeunes et de la culture, de ce qu'on a appelé le socio-culturel. Bon, effectivement, il y a eu énormément d'équipements qui se sont développés, bon, donc c'était des points positifs, mais en même temps, il y a eu une sorte de glissement du projet. Alors, c'est vrai, bon, c'est ce que j'essayais de souligner aussi, c'est que c'est vrai que ça pose un problème pour l'apprentissage démocratique, etc.
Voilà, une dernière question à gauche.
Oui, bonsoir. Il me semble que le plus les associations sont soutenues par l'État, le moins ils sont inclinés de critiquer ou de donner des directions alternatives à la vie sociale courante ou à la politique sociale de l'État. Est-ce que vous avez cette impression et est-ce que vous qu'est-ce qu'on peut prévoir pour que l'indépendance des associations soit préservée?
Il est vrai que l'autonomie financière de l'association favorise certainement son autonomie politique, si je puis dire, par rapport à l'État. Cela dit, les associations, par exemple, qui ont recours aux dons, bon, elles sont effectivement totalement autonomes et donc elles peuvent agir exactement comme elles l'entendent, mais ce ne sont pas forcément les associations qui vont former à la démocratie le plus de citoyens, parce que ce sont souvent des associations ou des ONG ou des associations humanitaires qui vont intervenir à des niveaux tout à fait différents et qui interviennent assez peu, me semble-t-il, à ce niveau de formation du citoyen. Mais, et en ce qui concerne les financements, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'une difficulté supplémentaire a surgi avec la crise et la décentralisation, hein, les deux phénomènes concomitants, qui est que les financements maintenant des associations sont faits sur des projets très précis. Hein. Donc finalement, ce sont les initiatives associatives dépendent quasiment de l'offre publique, alors qu'auparavant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand la structure associative elle-même était financée, avec bon chaque année telle subvention est versée, et puis finalement l'État ne regardait pas trop, l'association faisait un peu ce qu'elle voulait de sa subvention. Hein. Aujourd'hui, la dépendance est accrue parce que c'est plus une subvention globale qui est donné à la structure, mais c'est des financements alors pour faire telle action, pour ceci, pour cela, et là la puissance publique contrôle après si ça a vraiment été fait. Donc les choses de ce point de vue là ont empiré. Donc c'est pas uniquement parce que il y a un système de subvention, enfin de financement public, mais c'est aussi la manière dont il est fait qui induit plus ou moins de dépendance.
Voilà. Merci Martine Barthélémy.